Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler.
Ah, c'est pas faux.
Non !
Mon pinaise, oui !
Pas ça ! Non !
Dites mon nom.
Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes.
Merci, 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 merci. Écoutez, je dirai pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip, bip.
Bonjour, c'est Clémence, bienvenue dans We Love Série, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui. Dans la collection du moment, on explore l'univers des Sopranos, la série culte de HBO. Et comme d'habitude, on prend notre temps pour creuser le sujet sur plusieurs épisodes. La semaine dernière, on vous parlait de David Chase, le créateur de la série, et des producteurs, scénaristes, comédiens qui ont travaillé à ses côtés. Aujourd'hui, pour le tout dernier épisode de cette collection, on se penche sur plusieurs sujets brûlants. D'abord, la fin de la série qui a fait couler beaucoup d'encre, mais aussi sur ce que nous réserve l'avenir. Et vous allez voir, on n'en a pas encore fini avec la famille Soprano. Pour ce dernier tour d'horizon, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane.
Salut Clémence.
Et Rafik Djoumi. Salut Rafik.
Salut Clémence.
Alors aujourd'hui, les garçons, on va s'attaquer à des sujets pas faciles. Allez, on va se donner un peu de courage en écoutant ça. Stop Believing the Journey. Bon, je crois que toutes les personnes qui ont regardé la série jusqu'au bout n'écouteront plus jamais ce titre de la même oreille. Et pour cause, hein, c'est la musique qui accompagne la toute dernière scène du dernier épisode de la série. Alors, cette dernière scène, elle a fait couler beaucoup d'encre, elle est très controversée. Lequel de vous deux veut me résumer un petit peu ce qu'on y voit ?
Voilà, pour comprendre pourquoi elle est aussi controversée, il faut aussi comprendre ce qui s'est passé sur les 6 saisons des Sopranos. C'est une série qui, à elle seule, a vraiment mis le nom de HBO en haut de l'affiche aux États-Unis, dans le champ culturel. Et beaucoup de gens qui n'avaient pas HBO se sont abonnés pour pouvoir suivre les Sopranos. Donc c'est vraiment c'est la locomotive. Et évidemment, à l'annonce du dernier épisode, ben, tout le monde est là, quoi. Tout le monde est présent. Je ne sais pas combien de millions de foyers sont connectés. Là,
quasiment 12 millions étaient
voilà.
Présents.
C'était encore l'époque où on était tous à la même heure sur nos écrans pour regarder quelque chose. Et on imagine la pression incommensurable qui est posée sur la production parce qu'il s'agit de conclure une série qui ne menait pas forcément à une conclusion. Ça fait 6 saisons qu'on ausculte ces personnages avec la vague promesse qu'ils puissent changer, qu'ils puissent s'améliorer, mais on sait que ça ne sera pas le cas. On sait qu'il n'y a pas d'amélioration possible, que tout ce qui se passe, c'est que la vie continue son chemin. Et en fait, il faut aller au bout de cette logique. Et le bout de la logique ne va pas satisfaire tout le monde, en fait. Et ça, c'était immanquable. Mais comment le faire de façon élégante? Et donc, c'est ce qu'ils ont tenté de faire sur cette séquence-là, puisque c'est une fin, ce qu'on appelle une fin ouverte. C'est-à-dire, on laisse au public, on va y arriver, je sais que tu fais la tête, parce que pour toi, c'est évident ce qui se passe, mais en réalité, on laisse quand même au public le choix de décrypter ce qu'il vient de voir. Donc, on raconte la scène, désolé pour le spoil, mais donc, après avoir fait la paix avec une famille adverse, en fait. Tony et sa famille vont au restaurant. C'est une des rares fois dans la série où on les voit fonctionner à peu près normalement. Ils sont là, ils sont en train de commander, en train de regarder leur menu. Sa fille est en retard, elle n'arrive pas à se garer. Elle va essayer deux fois à faire un créneau et finalement elle n'y parvient qu'à la troisième fois.
Alors que la place est super large.
Voilà. et à chaque fois que la porte s'ouvre et on a une petite cloche qui sonne dans le restaurant, et du coup Tony regarde pour voir qui vient de rentrer. Est-ce que c'est sa fille qui l'attend? Et à chaque fois c'est quelqu'un d'autre, dont un individu mystérieux qui semble se diriger vers les toilettes. Et enfin, lorsque sa fille a fini par garer sa voiture, elle se précipite dans le restaurant. Tony entend la porte qui cloche et lève les yeux. Et là, on a un écran noir. On a un écran noir qui doit durer 10, 15 secondes, un truc vraiment une éternité. La chanson Don't Stop Believing, qui à ce moment-là était vraiment dans son final glorieux, s'arrête ultra brutalement.
Tony choisit la chanson en fait au début de la scène,
oui,
il attend le reste de sa famille,
oui,
sur un jukebox.
Tout à fait. Et on a voilà un écran noir. Et donc ça a plongé le public dans la stupeur. Qu'est-ce qui vient de se passer?
Il y a des gens qui ont cru que leur télé était cassée.
Il y a eu de tout, mais effectivement, les 15 secondes d'écran noir, c'est suffisant pour penser qu'il y a un vrai problème, parce qu'il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image, il n'y a rien, quoi. Avant que le générique ne reprenne, quoi. Et te fasse comprendre que les sopranos, c'est fini. Donc, il y a tellement de choses symboliques à tirer de là. Donc, déjà, il y a le côté c'est fini, il va falloir couper le cordon ombilical. Ça, c'est compliqué quand on a passé 6 saisons avec ces personnages. Et aussi, maintenant, il y a aussi cette idée qu'on n'a pas vu ce qui s'est passé à la fin. C'est laissé à votre bon vouloir. En réalité, vous savez ce qui s'est passé. Certains d'entre vous vont lutter contre cette idée.
Une fois de plus, on fait confiance à l'intelligence des spectateurs pour lire entre les lignes.
Exactement.
Et interpréter.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que depuis plusieurs épisodes, on a une phrase qui revient régulièrement, qui est la façon avec laquelle les mafieux règlent leur compte. Hein, donc, souvent, ils se font buter dans des restaurants. Et on sait qu'ils ont une conversation pour savoir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Et ils en viennent à la déduction qu'en fait, il ne se passe rien pour la victime, parce qu'elle ne voit pas le coup venir. Donc, en gros... t'étais là tranquille et puis tout d'un coup il n'y a plus rien. Donc évidemment cette scène elle renvoie à ça. Tout est tranquille, il est au resto,
il y
a ce mec, ce mec qui est allé aux toilettes, qui est l'endroit généralement où on va se rendre pour pouvoir sortir son flingue, et voilà, et s'est rendu compte de rien. À savoir, est-ce que Tony s'est fait buter ou pas? En fait, moi, je pense que la piste la plus intéressante à tirer, c'est celle de la mise en scène de cette séquence. Puisque, en fait, elle est composée basiquement de trois valeurs de plan qui sont les reaction shots de Tony, donc c'est lui qu'on voit réagir. Ensuite, on voit ce qu'il voit. Et enfin, on a des plans annexes sur d'autres personnes dans le restaurant. Et lorsque sa fille arrive... s'approche de la porte, et on voit le visage de Tony qui lève les yeux en entendant la cloche, et ensuite l'écran noir. Or, l'écran noir, c'est le plan qui fait suite à Tony qui lève les yeux, c'est-à-dire c'est ce que Tony voit. Et donc, ce qu'il voit, c'est un écran noir et il n'y a pas de son, parce que sa vie s'est arrêtée. Ça, c'est moi, ça a été ma façon à moi de voir la scène, mais il y a des gens qui ont préféré nier ça et dire non. En fait, tout l'épisode, toute la fin de la saison, c'est une fin de saison amère qui te fait comprendre que de toute façon, il faut lâcher les trucs parce que les choses continueront comme elles sont. Un peu avant dans l'épisode, par exemple, on a Tony qui se confronte une dernière fois à Junior, qui est complètement grabataire, qui se souvient plus de rien.
En pleine démence.
Voilà. Et où il s'aperçoit qu'en fait, ce type qu'il a à la fois... aimé, haï, etc. Ben, il n'existe plus, en fait. Il faut lâcher le truc. Donc, ben...
C'est la fin d'une ère.
C'est ça, c'est la fin d'une ère, mais parce que la vie continue, en fait. Donc, ces spectateurs-là, ils ont choisi de croire qu'effectivement, on ne saura pas ce qui s'est passé parce qu'on a, en tant que spectateur, nous, on doit dire au revoir à Tony et à sa famille. Et ça s'est arrêté là pour nous, en fait, à ce point-là. Le reste ne nous appartient plus. La vie continue, la vie suit son chemin. Donc, le choix a été donné au public.
Alors, on peut quand même faire le parallèle avec Le Parrain, avec Corleone qui prend une arme dans les toilettes et tue Virgil Solozzo et son garde du corps.
Bien sûr, évidemment, c'est fait pour qu'on y pense. Et puis de toute façon, il y a eu des évocations de ça dans la série. Mais ce qui est intéressant, c'est que la réaction furieuse que ça a généré, donc parce que évidemment. On n'en est pas encore à l'explosion des réseaux sociaux tels qu'on a eu sur Game of Thrones, mais on a quand même senti passer la colère et des gens qui ont résilié leur abonnement dès le lendemain à HBO en faisant très clairement comprendre que c'était à cause de ça. Ce qui est intéressant, c'est aussi la façon avec laquelle on a joué des attentes de ce public, parce que depuis plusieurs épisodes, on sait que Tony est en danger de mort. Ça fait déjà deux fois qu'on a essayé de le tuer, hein, dans la série. La troisième sera la bonne, sans doute, quoi. Et dans le premier épisode de la deuxième partie de la sixième saison, on offre à Tony un fusil pour qu'il puisse se protéger. On lui offre un AR-10, qui est une espèce d'énorme machine gun de tout droit sorti d'un comic book, quoi. Alors évidemment, en tant que bon gros macho, Tony, dès qu'il a ça dans les mains, il a un gros sourire sur les lèvres et il peut pas s'empêcher d'aller en forêt pour tester son joujou. Et voilà, on lui conseille de se mettre un peu au vert, donc il va dans une cabane dans les bois pour se mettre loin de ses ennemis, et il dort avec ce fusil énorme sous le lit. Donc ça, c'est littéralement un truc de scénariste, un petit jeu, un petit clin d'œil envers les scénaristes, parce que c'est ce qu'on appelle dans le milieu du scénario le fusil de Tchekhov. C'est-à-dire que Tchekhov disait, si dans une pièce de théâtre vous parler d'un fusil à un moment donné, il faut que ce fusil serve à quelque chose. Sinon, c'est pas la peine de l'évoquer. Il y a même pas besoin de l'avoir sur la scène, en fait, quoi. Et donc le fait de mettre entre les mains de Tony cette énorme machine gun, c'est presque comme une façon de dire, dans votre habitude de spectateur, vous savez que ce truc va servir. Et donc, vous vous doutez qu'à la fin, ça va se terminer en bain de sang avec Tony qui arrose des hordes de d'ennemis venus avoir sa peau un peu à la Scarface, quoi, si tu veux. Sauf que les Sopranos, ça n'a jamais été Scarface, et Tony Soprano n'est pas, absolument pas Tony Montana. Et donc, le caractère déceptif de la fin, qui va à l'encontre de tout ce qu'on a fait monter comme sauce, en fait, c'est pas déceptif par rapport à la logique de ce que raconte cette série.
Mais non, et puis malgré tout, enfin, je trouve que cette scène a une tension incroyable, parce que justement, c'est ce qu'on dit, c'est une scène où, vu de l'extérieur, si on n'y prête pas attention, on est censé être focalisé justement sur les détails, si on n'y prête pas attention, on se dit, mais c'est une scène tout à fait banale, ils vont au restaurant, ils commandent des onion rings, et c'est tout. Et quand on regarde les détails, ce que tu disais, les différentes valeurs de plan, la succession, c'est, enfin, rien que d'en parler, j'ai la chair de poule, quoi. Oui. La tension est palpable.
Bien sûr. À un niveau symbolique, le fait que sa fille rate deux fois le créneau pour réussir son troisième, alors qu'on a raté deux fois l'assassinat, on va réussir le troisième. Enfin, donc on joue à plusieurs niveaux. La chanson, ça l'appelle littéralement Don't Stop Believing. Donc oui, il y a des gens qui veulent croire qu'il va pas mourir, quoi. Mais en fait, si, bien sûr qu'il va mourir. Ça fait partie du truc. C'est attendu depuis le premier épisode, vous savez.
Mais ce qui est marrant, en fait, c'est que peut-être que les gens veulent le voir mourir aussi. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, Le truc qui est intéressant, c'est qu'il paraîtrait qu'aujourd'hui, en fait, les gens ont plus ou moins accepté, en fait, cette fin, comme faisant partie, en fait, de comment dire,
de l'œuvre.
De l'œuvre en soi. Je pense qu'elle a été acceptée parce que Gandolfini est mort. Vraiment. Et que, du coup, il n'y aura pas de suite, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette idée. Si Gandolfini était vivant et comme personne ne peut vraiment le remplacer, en fait, il y aurait cette idée que, comment dire, bah, si, quand même, on peut continuer. En fait, là, c'est pas possible. Et ce qui est marrant, c'est que pour une série qui dit finalement, en fait, qu'il faut remplir les blancs, c'est-à-dire que vraiment comprendre entre les lignes, en fait, ce que les personnages se disent, et donc quelque part ce que la série dit, en fait, sur les personnages, je pense que c'est le caractère, effectivement, de quotidien, en fait, mais qui est, en fait, le propre de la série, qui peut-être a trompé les gens sur cette scène. Mais je suis quand même étonné, en fait, que ce soit aussi mal reçu, parce que, justement, comment dire, ben voilà, c'est une série qui, au fur et à mesure où elle avançait, allait vraiment, en fait, dans l'interprétation psychanalytique, dans, comment dire, toutes ces choses-là. Et du coup, avec une ouverture, enfin, la saison 6, elle prend quand même 5 épisodes, littéralement 5 épisodes, de Tony Soprano qui est entre la vie et la mort dans les limbes, en fait en train de fantasmer une autre vie, etc. Donc du coup il y a tout un truc autour de ça qui dit en fait que Bah oui, en fait, c'est annoncé quelque part. Et c'est vrai que c'est étonnant. Je trouve ça presque. On se posait cette question dans cette propre émission, en fait, sur même la réception de Game of Thrones aussi, hein, du final de Game of Thrones. Et effectivement, les réseaux sociaux, ont fait œuvre de caisse de résonance, en fait, pour ça. Mais David Chase lui disait lui-même que, en fait, à part le fait qu'on lui ait rapporté que la fin n'avait pas été, été controversée, lui, en fait, on ne lui a jamais dit en face. Et c'est assez marrant parce que je pense que ça le conforte en fait dans sa décision. Quoi.
Alors David Chase, il faut savoir qu'il a toujours laissé planer le doute sur l'interprétation de cette scène finale, mais il s'est un petit peu grillé tout seul parce qu'il y a quelques années, il était interviewé à propos d'une fin alternative. Est-ce que vous en avez entendu parler ?
Non.
Alors cette fin alternative qu'il avait en tête, il le disait environ 2 ans avant la fin, c'est une scène où Tony doit être appelé pour une réunion avec Johnny Sack à Manhattan. Il allait passer par le Lincoln Tunnel et on ne l'aurait plus revu parce que l'écran allait devenir tout noir, ce qui supposait que la réunion allait mal tourner. Il rentre dans le tunnel, mais il n'en ressort pas. Donc, on retrouve cette logique-là. Et David Chase affirmait que oui, c'était une scène de mort. Donc, finalement, on retrouve un petit peu la même mécanique. D'ailleurs, après cette déclaration-là, une des personnes qui l'interviewait lui dit « Vous vous rendez compte quand même de ce que vous venez de dire ? Vous faites référence à une scène de mort ?» Et David Chase... a pas vraiment répondu, il a essayé un petit peu de louvoyer, il a fini par dire « Bon les gars, je vous emmerde ».
Et c'est-à-dire que thématiquement, en plus, ça aurait collé avec le générique. Donc le truc, c'est que je pense
ça bouclait la boucle.
Je pense que quelque part, en fait, ça aurait peut-être été mieux perçu, en fait, si c'était montré de cette manière-là, parce que justement, en fait, ce générique dont on a parlé dans le premier épisode, en fait, on le voit tout le temps, en fait, tout le temps, et on est habitué, en fait, du coup, ce qu'il raconte, en fait, et à cette idée qu'on parle de New York pour aller vers New Jersey. Donc là, en fait, on part de New Jersey pour aller à New York. Et surtout, comme la série raconte de toute façon ces guerres intestines dans la mafia entre les différentes factions, et notamment, en fait, entre la Floride, New York et New Jersey, voilà, bon, c'est je pense que les spectateurs auraient mieux accepté l'aspect, on va dire, ambivalent d'une telle fin. Quoi.
Et puis surtout, c'est une série qui parle d'une longue psychanalyse, donc qui est un processus qui n'a pas de climax en fait. La fin d'une vraie psychanalyse, en fait, elle est toujours douce amère. C'est-à-dire que tu finis toujours par t'apercevoir que les choses sont comme ça, que tu es comme ça, qu'il faut accepter finalement d'avoir eu ces problèmes et d'avoir mal vécu ce passé, etc. Et que la vie continue, mais que tu vas essayer de l'aborder un peu différemment, en étant peut-être pas forcément plus accro aux mêmes choses, mais conscient que tu es accro à ces choses-là. Et Les Sopranos, c'est une série qui nous a mis face, en tout cas les Américains, qui les a mis vraiment, comme je l'ai dit dans le premier épisode, face à leur désir inconscient, plus ou moins, de violence. Et ils attendent de la violence. Quand je parlais de cette histoire de fusil de Tchekhov, ils attendent un final hyper sanglant. Ils ne s'attendent pas à quelque chose d'aussi bête et simple que un écran noir, en fait, de non spectaculaire, par rapport à une série qui est considérée comme le parangon à l'époque où cette saison est diffusée. En fait, on a ausculté ce public, on l'a psychanalysé pendant 6 saisons, on a essayé de lui mettre en évidence que il était accro à ça, et que comme le disait Stéphane, quand le personnage de Tony Soprano qui est entre la vie et la mort et qui s'imagine vivre une autre vie, la vie qu'il vit, c'est la vie de Monsieur Tout-le-Monde. Et en fait, ces épisodes ressemblent à un cauchemar. C'est littéralement un cauchemar, c'est-à-dire il passe de petits hôtels en petits hôtels, c'est une espèce de représentant itinérant dans le pays, des salons de commerciaux à la noix où on se fait chier, enfin bon.
Et il est même l'inverse de Tony Soprano, parce que en fait fondamentalement il y a par exemple à un moment donné une scène où il s'apprête à avoir une maîtresse. En fait, la maîtresse lui dit non, en fait, ça n'arrivera pas parce que tu as évoqué ta femme. Moi, je. Voilà, il fait ah merde, j'ai merdé.
Il est vraiment dans. Et c'est d'une tristesse infinie. Enfin, faut imaginer le culot qu'il fallait quand même à l'époque pour balancer ça. C'est des épisodes complets, hein, où juste il se passe rien. C'est l'enfer du vide, quoi. Et on montre ça à un public à qui on dit depuis 5 saisons. Vous êtes accro à la violence de Tony Soprano. Vous la voulez parce que justement, dans votre vie de tous les jours, vous vivez comme ce mec-là. une vie morne et terne qui vous rend fou et vous êtes accro à la surstimulation, vous en voulez, quoi. Et donc, ben voilà, à partir du moment où tu annonces à ce public que c'était ça son problème en tant que public, ben la fin, c'est juste la fin de la thérapie, elle va forcément vous décevoir parce que la fin de la thérapie, c'est lâche l'affaire, mec. Et cet épisode, il est arrivé à point nommé. Il s'est toujours défendu, David Chase, d'avoir voulu provoquer le public ou de lui mettre le nez dans la merde, etc. C'est pas du tout l'intention. L'intention, c'est encore une fois de faire de l'entertainment, donc de l'intéresser, mais de l'intéresser en étant cohérent. Et je crois qu'il disait, notre seul but, c'était d'aller jusqu'au bout.
Oui, d'avoir une consistance dans la façon de raconter l'histoire.
C'est ça. Et donc, évidemment qu'il y a eu des réflexions à n'en plus finir. Oui.
Et alors, justement, en parlant de consistance, avant qu'on passe à la suite, il y a un dernier point que je voudrais aborder à propos de ce dernier épisode, parce que ça m'a vraiment interpellée, c'est le titre de cet épisode. Le titre, c'est « Made in America », fabriqué en Amérique. Ouais. Et je me demande vraiment... quel est le message? Parce que je suis sûre qu'il y a un message sous-jacent. Est-ce que c'est une façon de dire que finalement, les origines américaines ont pris le pas sur les origines italiennes chez Tony? Est-ce que ça parle de la série au global?
Non, je pense que ça veut dire ça. Enfin, c'est un portrait de l'Amérique, enfin de la conscience de l'Amérique qui est psychanalysée, quoi. C'est-à-dire... ça, on va pas rentrer dans des détails historiques, mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont appelé plein de psychanalystes parce qu'ils avaient des problèmes avec leurs soldats, là, de PTSD et tout ça, qui pensaient que c'était dû au conflit. Et en fait, les psychanalystes leur ont dit non, les problèmes qu'on est en train de sculpter, c'est pas sur le front que les mecs les ont eus, c'est dans la vie de tous les jours aux États-Unis, quoi. Vous êtes le pays le plus névrosé qu'on ait jamais vu. C'est un pays de névrosé total, les États-Unis. Les ventes de calmants, de gaviscon, de machin, enfin, je veux dire, ça explose, quoi. C'est un pays qui oblige son public, sa population à adopter des codes de conduite complètement contradictoires, où d'un côté, on attend que tu respectes les règles et la loi, et en même temps, on exige de toi que tu réussisses et que tu écrases les autres. Donc, toutes les contradictions auxquelles les personnages des Sopranos sont confrontés, c'est des contradictions américaines à la source de leur névrose, quoi. Donc, le public, je pense que vraiment, ils ont fait tout leur possible pour faire comprendre au public qu'on était en train de parler de lui à travers cette série-là et que, encore une fois, la fin, elle invite à ce fameux lâcher-prise.
Alors, cette fin, on va passer à la suite, parce que l'heure tourne. Cette fin, on la retrouve en dehors de la série, parodiée, mais alors, à un point, enfin, c'est partout. La chaîne ABC News l'a parodié, l'équipe de baseball, les Pirates de Pittsburgh l'ont parodié, même pendant la campagne présidentielle d'Hillary Clinton, on a une parodie de cet écran noir qui arrive. Et puis, il y a plein d'autres moments de la série qu'on retrouve qui sont cités, parodiés dans la culture populaire en général, séries, films, émissions de télé. Stéphane, je crois que tu voulais nous parler de jeux vidéo.
Bah, oui, alors après, en termes... Alors, c'est pas forcément de la parodie, mais c'est...
Ou des références,
c'est
hommage.
C'est de la référence, hommage. Voilà, Rafik avait parlé rapidement de GTA 4, il y a, quelques numéros de ça. Mais clairement, je veux dire... que c'est une série, enfin alors déjà dans GTA 3 il y a quelques acteurs en fait des Sopranos qui se retrouvaient dans la série, enfin au casting vocal, mais dans GTA 4 il y a vraiment l'idée que en fait je crois même qu'il y a la maison de Tony, je ne dis pas de bêtises,
oui, il me semble qu'il y a la maison de Tony à un moment
voilà,
dans
la partie New Jersey du truc, quoi, de la map en fait de GTA 4 qui est Liberty City, qui est donc une version de New York, quoi.
La famille Pegorino.
Voilà, c'est ça. Et dans GTA V, en fait, cette logique d'analyse est au cœur littéralement du jeu. C'est-à-dire qu'en gros, le personnage, alors, n'est plus du tout dans le même univers, c'est-à-dire on est en Californie, dans GTA V, quoi. Mais le personnage principal suit une thérapie. C'est quelque chose qui a été vraiment mis en avant dans la façon de vendre GTA V, quoi. Dans la caractéristique du personnage. Et cette thérapie qu'il est en train de suivre, elle est étrange parce qu'en général, en fait, dans ce genre de jeux vidéo, c'est des personnages quand toi, en tant que joueur, tu vas voir un personnage, généralement, c'est pour qu'il te donne une mission à accomplir. Et là, en fait, tu as des missions qui sont des missions où tu vas chez son thérapeute et il se passe rien.
C'est-à-dire, c'est juste une conversation, un choix ou deux à faire, de temps en temps. Et c'est pas du tout ce qu'on appelle un mission giver, c'est-à-dire un personnage qui te donne une mission, va faire ça pour moi, etc., etc. Ce qui est le propre, en fait, de la structure, en fait, de jeu de GTA, quoi. Et tout simplement pour une raison, ce qu'évoquait Rafik, en fait, sur l'idée, en fait, que les Sopranos analysent le spectateur, et ben, en fait, GTA V analysait le joueur aussi, quoi. C'est-à-dire que, à la fin du jeu, après 100 heures de jeu, hein, et 100 heures de fonctionnement, et notamment à travers les choix que tu fais vis-à-vis de ce personnage-là aussi, du thérapeute, en fait, bah, le
à la fin du générique.
À la toute fin du générique, après 30 minutes de générique, hein, parce que c'est des génériques extrêmement longs, les génériques de jeux vidéo.
Très peu de gens sont allés jusqu'au bout.
T'as une fiche, en fait, qui te dit, voilà,
évaluation.
Ton évaluation
psychologique.
Voilà.
Ouais, en fonction de ta façon de jouer, en fait.
Voilà. Et en général, elle est quand même très, très, négatif, quoi. Donc, voilà. Mais du coup, en fait, ce sentiment, en fait, que la logique, en fait, qu'une série, comme les Sopranos analysent le spectateur et que du coup un jeu vidéo aussi énorme en plus que GTA V, parce que on va dire que GTA V c'est l'équivalent en fait en jeu vidéo d'une série télé comme les Sopranos, c'est-à-dire que c'est un monument quoi. Ils ont la même démarche littéralement et je pense que cette démarche n'aurait pas existé sans les Sopranos effectivement. Et je pense que pour le coup les développeurs de Rockstar ont vraiment étudié la structure en fait narrative des Sopranos pour l'appliquer à une structure de gameplay en fait dans leur propre jeu.
Ils donnent des tas d'indices hein, sur l'affiliation dans GTA 4. Donc il y a un personnage un peu secondaire mais qui s'appelle Anthony Corrado. Anthony c'est l'acronyme de Tony, enfin c'est le nom complet de Tony et Corrado c'est le vrai nom de Junior en fait quoi. Donc, on le serait à moins. On sait que c'est des gros fans de films du cinéma d'action, du cinéma populaire, etc. Et évidemment, tu ne peux, enfin, même si c'est pas une série d'action, les Sopranos, sa structure narrative extrêmement resserrée, son côté radical, parce que quand même, je pense qu'on a insisté là-dessus dans ces quatre épisodes, fait que bah, le public friand de ces fictions-là ne peut que s'y retrouver, quoi. Donc les créateurs de GTA, a fortiori.
Et le public, il va être content, puisque qu'est-ce qui se passe prochainement. Prochainement, normalement, si tout va bien, cet automne, en France, le 3 novembre, va sortir un film intitulé The Many Saints of Newark, un préquel des Sopranos qui se déroule dans les années 60, alors que les communautés italo et afro-américaines se livrent une guerre sans merci. Je vous propose qu'on écoute un petit extrait de la bande-annonce.
When I was a kid, guys like me were brought up to follow codes.
Hey, jerk off.
What'd you say?
What?
Antonio Soprano.
I wonder if I can talk to you alone for a moment, Mrs. Soprano. On the basis of the Sanford-Binet, he's high IQ.
You can't prove it by me. He's got a D plus average.
Well, he doesn't apply himself, but he is smart. The results tell us. He's a leader.
Donc ce projet est officiellement annoncé en mars 2018 avec David Chase au scénario, Alan Taylor à la réalisation, qui a lui-même déjà mis en scène 9 épisodes de la série. Et puis, côté casting, on retrouve le fils de James Gandolfini, Michael Gandolfini, qui reprend le rôle de son père. Le personnage a toutefois un rôle assez secondaire dans l'intrigue, mais on l'a entendu là dans la bande-annonce, son nom est prononcé, et il faut dire que la ressemblance entre le fils et son père est quand même assez impressionnante.
Il est toutefois beaucoup plus mince, mais bon, il est très jeune, hein, il a une vingtaine d'années, je crois. Alors après, c'est un projet... David Chase, en fait, explique que c'est vraiment un film de cinéma pour lui. C'est-à-dire que déjà apparemment, alors on n'a pas vu le film hein, encore, mais il insiste sur l'idée que d'abord il fallait que ça fasse moins de 2 heures parce que pour lui les films actuels sont trop longs. Et en fait, il y a vraiment en fait cette idée que le personnage principal, en fait, c'est le père de Chris Moltisanti dont on entend parler plusieurs fois parce que justement c'est un personnage assez exubérant aussi, assez violent et volatile. Et voilà. Et donc, moi, la bande-annonce ne m'a pas vendu le film, j'avoue. C'est, voilà. Mais je suis quand même curieux, en fait, de voir ce que ça peut donner. Et c'est probablement ce qu'on pourrait faire de plus proche, en fait, de toute façon, d'une continuation des Sopranos, puisque, en vrai, sans Gandolfini, c'est devenu très compliqué, quoi.
Oui, effectivement. Donc, le titre, The Many Saints of Newark, Many Saints, ça vient de Moltisanti, en fait. Mm. C'est la traduction de l'italien Moltisanti. Mm. Donc, on voit bien la référence, effectivement, au personnage de Dicky. On va retrouver d'autres personnages de la série hein, qui réapparaissent, comme l'oncle Junior, par exemple, Silvio Poli.
Poli. Ça, j'ai hâte de voir comment ils vont le faire.
Et Livia Soprano, qui est jouée par Vera Farmiga cette fois-ci. Hein.
Qui est absolument. Excellente actrice.
Et puis, une personne qui s'est sans doute un peu mordu les doigts d'avoir refusé à l'époque de participer à la série, c'est Ray Liotta, qui du coup rejoint le casting du film.
Et oui, Ray Liotta, qui est conditionné évidemment par son rôle des affranchis, qui était d'ailleurs une des voix de GTA, GTA 3, je crois, aussi.
Tout à fait, ouais. Ouais, le personnage principal. Voilà.
Mais c'est une carrière.
C'est quelqu'un qui, je pense, à l'époque, en fait, avait le choix. En fait, il l'a beaucoup moins, je pense, aujourd'hui, mais ça reste un excellent acteur, hein, vraiment. Mais, ouais. Mais il y avait ce choix-là, en fait, qui avait une crédibilité, on va dire, et qui aurait pu effectivement mener la série, quoi.
Il était dans Copland avec fait, deux ouais. acteurs des Sopranos.
Ouais. Et il était d'ailleurs excellent dans Copland, quoi. Mais voilà, c'était cette époque-là, il avait le choix de refuser. Et moi, quelque part, c'est bien, parce que justement, en fait, il fallait révéler une nature comme celle de Gandolfini, quoi. Surtout si, en gros, son passage sur Terre était quand même assez éphémère, quoi. Donc voilà, j'avoue que le voir son fils là-dedans, j'espère juste que ça ne sera pas trop, difficile. Mais je pense que, le fait de savoir que c'est son fils, c'est une chose, quoi. Mais même tous les autres personnages, je pense que en fait c'est tellement des personnages emblématiques. Enfin, on le disait, Poli, en fait, qui va jouer Poli? Je pense que personne d'autre pouvait jouer Poli que Tony Sirico. Donc là, ça va être compliqué, je pense.
C'est Billy Magnussen.
Oui, bien sûr. Non, mais en fait, c'est surtout. Enfin, voilà, je pense que c'est à moins de. On a vu hein, récemment des préquels comme ça, comme par exemple un acteur qui joue le personnage d'Harrison Ford de Han Solo en fait dans Star Wars, et ça marche pas en fait. C'est à un moment donné le poids du rôle et de l'acteur en fait est trop écrasant pour qu'on y croit en fait. Et là, c'est un des risques en fait de à mon avis de cette préquelle quoi.
Bon, on ira le voir quand même.
Oui, bien sûr.
Oui, parce que David Chase hein, de toute façon.
Alors le film devait initialement sortir le 25 septembre 2020. Évidemment, à cause du Covid, sa date de sortie a été reportée plusieurs fois, d'abord au mois de mars de cette année, puis à nouveau repoussée. Si tout va bien, il devrait arriver en même temps dans les salles américaines et sur HBO Max le 1er octobre 2021, donc dans très peu de temps. Pour la France, il va falloir patienter un tout petit peu plus. Normalement, le film sort le 3 novembre. Et c'est ici que se referme notre collection consacrée aux Sopranos. On espère vous avoir donné envie de la voir ou de la revoir. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour ce 4e et dernier épisode.
Merci Clémence.
Oh, magnifique, en tout cas. Wheel of Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur wheelofcinema.bnpparibas ou sur vos applis de podcast. À très vite.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.